Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Aujourd'hui et pour cet été, nous vous proposons les meilleurs moments d'Accent d'Europe. Des récits pour l'histoire, c'est ainsi que 5 journalistes turcs ont conçu un livre de témoignages, ceux des victimes de la répression du mouvement Gezi, ce mouvement qui a vu des millions de personnes descendre dans les rues de Turquie à l'été 2013 pour défendre la liberté et quelques arbres de la place Gezi, justement. La police a écrit une légende, avait commenté Recep Tayyip Erdogan, qui était alors Premier ministre, une manière de glorifier les forces de l'ordre. C'est le titre qu'ont repris les journalistes pour dénoncer un été de violence policière. À Istanbul, Anand Lawar a rencontré 2 des 5 journalistes qui ont récolté ces témoignages.
Des grenades lacrymogènes, des jets de canons à eau, des sirènes de police et d'ambulance, des hommes et des femmes qui crient et courent pour éviter une nouvelle salve. C'est ce qu'a été, pendant un mois, la bande-son d'Istanbul et de presque toute la Turquie. Un moment inédit, un mouvement nommé Gezi, ce parc que le gouvernement avait l'intention de détruire. Le ministère de l'Intérieur a reconnu lui-même que 2,5 millions de personnes étaient descendues dans la rue. À aucun moment, le Premier ministre de l'époque, Recep Tayyip Erdogan, n'a cherché à comprendre et à apaiser cette colère. D'un bout à l'autre, les manifestants n'ont eu face à eux que des policiers. Dans leur préface, les auteurs de ce livre, sous-titré « Les témoins de la violence de Gezi », rappellent que le bilan est lourd, 7 morts et plus de 8 000 blessés. Didem Gençtürk est l'une des 5 journalistes qui ont récolté les témoignages.
Les victimes de cette violence sont des gens ordinaires. C'est précisément ce que nous voulions montrer avec ce livre. La violence a frappé des gens comme vous et moi. Nous ne voulions faire aucune hiérarchie entre les violences, entre celui qui a perdu un œil à cause d'une capsule de gaz, celui qui a perdu un proche et celui qui a été matraqué alors qu'il sortait simplement de chez lui. Ils ont tous leur place dans le livre.
Dans ce livre édifiant, 56 témoins et victimes s'expriment à la première personne. Ils racontent ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu et les images de violence qu'ils n'ont pas oubliées. Une violence d'autant plus centrale qu'à l'époque de Gezi, près de la moitié de ceux qui étaient dans la rue citaient comme premier motif de révolte la violence policière. Denis Peloulou, une autre co-auteur.
On dit toujours que Gezi était beaucoup plus que l'affaire de 3 ou 4 arbres. C'est vrai, ce qui a fait descendre dans la rue, c'est la violence subie par quelques personnes innocentes et naïves qui ont voulu sauver ces 3 ou 4 arbres, d'Istanbul à Adana.
Gezi est un sujet tellement vaste, nous n'avons voulu traiter qu'un seul angle, celui de la violence. Les témoignages que nous avons recueillis pourront servir de matière brute aux travaux des sociologues, des psychologues et d'autres universitaires. C'était un travail d'archives, de documentation, pour que ces histoires ne soient pas oubliées.
2 ans et demi après, beaucoup de ceux qui ont participé cherchent encore à comprendre ce qu'a été Gezi et les causes de cette violence. Mais il y a plus, explique Denis Kololou.
En Turquie, la violence policière ne s'est pas limitée à Gezi. Et Gezi n'a pas été que la violence policière. C'était une décharge collective, une joie incroyable. Mais toute cette violence est tombée comme un marteau sur nos têtes. Des gens en sont morts. Je me sens à la fois chanceuse d'avoir été témoin de Gezi, mais je pense qu'il faut aussi se souvenir de la violence et de la peur qui ont marqué ce moment.
Pendant près de 2 ans de recherche, les 5 auteurs ont récolté 108 témoignages. Ils seront tous mis en ligne très bientôt sur un site internet dont le nom signifie en turc tout simplement « les témoins de la violence ».
C'était il y a 30 ans. Le premier ministre suédois Olof Palme était abattu en pleine rue. 3 décennies plus tard, ce meurtre reste un mystère qui pèse toujours sur l'histoire du pays et le Parti social-démocrate. À Stockholm, Sébastien Orion.
Il est 23h20 lorsque Olof et Lisbeth Palme rentrent à pied chez eux. Le film qu'ils viennent de voir les a ravis, mais ils ne se doutent pas qu'un homme les attend, tapis dans l'ombre. Une balle tirée dans le dos à bout portant va laisser à un pays et à ses habitants un souvenir indélébile. À l'occasion des 30 ans de sa mort, le royaume est à nouveau submergé par une vague Palme. Les théories fleurissent à nouveau et on repart des différentes pistes, celle des Sud-Africains, car Palme avait combattu l'apartheid, ou encore celle qui assure que le meurtrier était un policier ou un militaire suédois. Cet hiver-là, en 86, l'atmosphère était conflictuelle. Olof Palme était alors sur le point d'effectuer une visite en URSS, et certains milieux l'accusaient alors d'être un espion. On met aussi en avant son rôle de médiateur dans la guerre Iran-Irak ou encore son implication dans une vente d'armes. En 89, un homme fut tout de même jugé et condamné en première instance pour ce meurtre, Christophe Pétachon. Ce délinquant, alcoolique et toxicomane, fut formellement identifié par Lisbeth Palme lors d'une confrontation. Cependant, la cour d'appel de Stockholm en décida autrement, et faute de preuves et de mobiles, Gracia Pétachon. Ce feuilleton judiciaire ainsi que le fiasco des différentes enquêtes alimentent toujours les théories du complot. 30 ans après les faits, le mystère reste entier. Et il est difficile de ne pas idéaliser l'époque Palme, tant le Parti social-démocrate est aujourd'hui au plus bas, avec une crise des migrants qui ne cesse de diviser l'opinion. L'époque de la voix forte qu'incarnait Palme est bel et bien révolue, mais elle lente toujours les esprits suédois.
Voilà un jeu grandeur nature qui permet de s'amuser loin d'un écran. Importé du Japon il y a quelques années à peine, les escape games fleurissent un peu partout en Europe. Le jeu est assez simple et promet le maximum de frissons pour qui est un peu claustrophobe. Le but est de pouvoir s'échapper d'une pièce en résolvant une énigme dont les indices sont cachés dans le décor. Les 25-40 ans surtout se pressent pour jouer au détective. Reportage à Bruxelles, signé Yves Minot.
Bonjour.
Ce lundi, Virginie et Fabienne ont réservé une session d'une heure et demie chez Escape Hunt, référence parmi les franchises de jeux d'évasion grandeur nature. La mère et la fille ne s'attardent pas dans la salle d'attente, ambiance Sherlock Holmes, elles n'en sont pas à leur coup d'essai. Après le vol du Mannequin Piece et la bombe au Palais Royal, elles ont sélectionné aujourd'hui l'énigme la plus difficile.
En ce qui concerne votre mystère, nous allons prendre la direction de l'Opéra de Bruxelles, où un journaliste s'est présenté hier soir pour réaliser une interview et a été kidnappé. Et nous avons besoin de votre aide aujourd'hui pour retrouver non pas le journaliste qui n'est plus sur les lieux, mais bien son kidnappeur qui, lui, pour le coup, est toujours sur les lieux de son crime. Donc retrouver le kidnappeur de l'opéra et tenter de vous échapper des couloirs de l'opéra avant que le journaliste ne soit perdu à jamais. Mm-hmm. Vous avez une heure pour réaliser votre mission.
Ben, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne enquête, détective. J'espère bien évidemment qu'on se voit dans moins d'une heure.
Tout au plus dans plus d'une heure.
Tout au plus. Et surtout, profitez bien de cette partie.
Merci beaucoup.
Depuis son ouverture, il y a une petite année, Escape Hunt a reçu près de 10 000 participants. Ici, on ne parle pas de clients ou de joueurs, mais bien de détectives. Tous viennent tenter leur chance en groupe de 2 à 5 participants. Un succès qui étonne encore Maxime, 27 ans, maître des jeux et directeur du lieu.
Ça peut paraître un petit peu dick and neck, comme on dit ici en Belgique, à savoir grande gueule, mais je suis vraiment surpris en fait du taux d'affluence que les escape rooms ont ces derniers temps. Bon, en Belgique, le bouche à oreille fonctionne plutôt bien, donc c'est comme ça qu'on a eu beaucoup de visiteurs. Pour nous, c'est surtout le samedi que c'est marqué, c'est le jour où on a le plus d'affluence. Mais je reste toujours très surpris du nombre de visiteurs par jour. Escape Hunt, bonjour.
De fait, le téléphone n'arrête pas de sonner. Parmi les candidats à l'évasion, pas de profil type. Tout le monde se bouscule pour venir se faire enfermer.
On voit passer à peu près toutes les tranches d'âge, tous les types de personnes, que ce soit des personnes qui sont simplement en vacances ici, des touristes, que ce soit des locaux, que ce soit des amis, des étudiants, des familles, des team building la semaine, pour un moment en dehors du boulot, pour renforcer les liens au sein de son équipe.
Ok, alors ça c'est quoi ?
Non. Et ça s'ouvre. Il y a un tiroir. J'ai trouvé. Cherche pas.
C'est un peu pataugé, mais le restant ça a été.
Ouais, surtout trouver le chiffre exact.
Une heure plus tard, nos deux détectives en herbe ont réussi à résoudre le mystère qui leur était soumis et n'en sont pas peu fiers.
Si on veut vraiment passer un bon moment, c'est l'occasion d'y aller. Je trouve que c'est vraiment très chouette.
J'aime bien jouer sur l'ordinateur. Ça, je peux pas dire le contraire. Mais c'est vrai que le toucher, c'est aussi quelque chose de différent. On peut enfin voir qu'on peut suer un peu, hein, juste cliquer et puis sauvegarder et puis revenir deux jours plus tard et on a trouvé la solution. Là, c'est une heure et c'est tout. En une heure, on a tout trouvé et puis voilà.
Mais il faut déjà se déplacer. Hein, chez nous, on installe le jeu et puis on est chez nous, quoi. Ici, c'est déjà l'occasion de sortir de chez soi. Ici, on ne connaît pas du tout. On ne sait pas où on va. Donc en même temps, c'est très gai en même temps de voir ça, quoi. C'est l'inconnu, quoi.
Cet aspect ludique du jeu en équipe, loin des clichés sur la jeunesse, réputé ne communiquer qu'à travers les écrans, c'est la grande force des jeux grandeur nature, selon Maxime.
Malgré le fait que ce soit difficile, les gens apprécient ce côté jeu très réel, très tactile au final, qui implique de chercher par soi-même. C'est pas simplement cliquer sur son écran, comme la plupart des jeux point and click le font aujourd'hui. C'est vraiment devoir fouiller, devoir chercher, devoir revenir au jeu de base qui se joue avec les mains et avec la tête.
Avant de passer la porte, les détectives, s'ils le souhaitent, peuvent se déguiser avec les tenues de Sherlock Holmes, déclinées en jupette pour les demoiselles. Même la célèbre pipe est mise à disposition le temps d'une photo, à partager cette fois avec son entourage virtuel sur les réseaux sociaux. Les téléphones ne seront pas restés très longtemps dans la poche.
L'égalité homme-femme, c'est bien sûr la parité en matière de représentation dans le monde économique et politique, la parité en matière de droits et de salaires. Pour faire un vaste panorama de la question, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors avant d'aborder des points précis, pouvez-vous nous rappeler, Daniel, où se situe l'Europe par rapport au reste du monde en termes d'égalité homme-femme ?
Si vous le voulez bien, Frédéric, nous allons nous baser sur le Global Gender Gap Index, établi chaque année par le World Economic Forum, dont la réunion annuelle se tient à Davos, comme on le sait. Cet indice prend en compte quatre domaines, la participation et la prise de responsabilité au niveau économique, la performance en termes éducatifs, la santé et l'espérance de vie, enfin la participation au pouvoir politique. Sur les 145 pays du classement, 14 pays européens se placent dans les 20 premières places en 2015, soit 2 de plus qu'en 2012. Autant dire que notre région est la plus propice de la planète à l'égalité homme-femme. Au sein de l'Union européenne, deux pays scandinaves, la Finlande et la Suède, tiennent le haut du pavé. Mais notons qu'entre 2012 et 2015, les grands pays européens progressent sensiblement au classement. Il s'agit de l'Allemagne, qui passe de la 10e à la 5e place, du Royaume-Uni, de la 13e à la 9e place, et surtout, de la France, qui se classait 22e sur 28 en 2012 et qui saute à la 8e place.
Excellente nouvelle, mais retrouve-t-on cette progression dans des domaines particuliers ?
Oui, et c'est tout à fait spectaculaire lorsque l'on regarde la proportion des femmes au sein des conseils d'administration des entreprises cotées en bourse. En se référant aux compilations de la Fondation Schuman, Finlande et Suède tenaient le haut du pavé en 2012 avec 26% de femmes dans ces conseils. En 2015, la petite Slovénie est passée en tête avec plus de 31%, mais la France se retrouve en seconde position sur 28 avec plus de 30% de femmes dans les instances dirigeantes de ces grosses entreprises. Trois ans auparavant, ces femmes n'étaient que 12% en France et le pays n'occupait qu'une modeste 13e place. Il faut y voir, bien entendu, l'effet de la loi qui a instauré des quotas à partir de 2011. Une loi similaire a d'ailleurs permis à l'Italie de passer de la 23e à la 10e place. Notons aussi que le Royaume-Uni et l'Allemagne ne se situent respectivement qu'à la 8e et 9e place européenne, avec environ 22% de femmes dans les conseils.
Et au niveau de la représentation politique ?
Distinguons le gouvernement du Parlement. Si l'on regarde les femmes ministres, un seul pays atteint la parité absolue 50-50, c'est la Suède. Mais la France n'est pas loin, à la 2e place, avec 9 ministres de plein exercice sur 19, soit 47%. L'Allemagne est en 5e place, avec 37% de femmes ministres. L'Italie en 7e position, avec 35%. Et le Royaume-Uni arrive en 9e, avec un tiers des femmes dans le gouvernement Cameron. Bien sûr, la performance française est due à la décision de François Hollande d'instaurer la parité au gouvernement en 2012. On revient de loin, puisque le dernier gouvernement du précédent quinquennat ne comptait que 4 femmes sur 25.
Et qu'en est-il au Parlement ?
Au sein des chambres basses, comme l'Assemblée nationale en France ou le Bundestag en Allemagne, les progrès sont plus lents. C'est logique, puisque s'il est facile de féminiser les candidats, on ne peut guère imposer une féminisation des élus, surtout dans les systèmes majoritaires. Donc, à cet égard, on retrouve la Suède et la Finlande en tête de l'Union avec 43 et 41% des députés qui sont des femmes. L'Espagne et la Belgique viennent ensuite avec 39%. La France n'est que 16e avec 26% de femmes et elle se place derrière l'Italie 31% et le Royaume-Uni 29%. Notons toutefois qu'en 2007, le taux de féminisation des députés français n'était que de 18%.
Alors venons-en maintenant, Daniel, au point le plus délicat, les écarts salariaux.
Dans ce domaine également, les progrès sont généraux, mais cela ne va pas vite. Selon Eurostat, l'écart salarial global était en 2008 de 17,3% au détriment des femmes. En 2014, cet écart n'a qu'un peu diminué à 16,1%. Il est traditionnellement assez faible dans certains anciens pays communistes qui n'ont connu que récemment la loi du marché. Champion à cet égard, la Slovénie, avec un écart limité à 2,9% en 2014. Et la Pologne vient en quatrième position avec un écart de 7,7%. On constate que parmi les grands pays, l'Italie réalise la meilleure performance avec 6,5% de différentiel salarial féminin, ce qui reflète le faible taux de participation des femmes au marché du travail. La France n'est que 15e avec 15,3%, quand même en progrès par rapport aux 18% de 2008. Quant à l'Espagne, au Royaume-Uni et à l'Allemagne, elles sont loin avec des écarts de 19 à 22%. Outre-Rhin, cette médiocre performance s'explique par l'importance du travail partiel féminin.
Et finalement, Daniel, que peut-on conclure de ce panorama ?
D'une part, que les inégalités se réduisent indéniablement en Europe, mais aussi ailleurs. Et l'on constate qu'il y a désormais une sorte d'unanimisme politique pour adopter des mesures volontaristes tendant à plus d'égalité. Notons pour finir que la France a particulièrement progressé en Europe ces dernières années. Enfin, une bonne nouvelle que nous ne devrions pas bouder aujourd'hui.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
On n'associe pas spontanément les noms de George Friedrich Handel et de Jimi Hendrix. C'est pourtant ces choses faites avec l'ouverture de l'appartement de Jimi Hendrix au public, financé par le musée Handel à Tenant. Clash des décos, mais pas forcément des musiques, comme nous l'explique depuis Londres Marie Billon.
Deux géants de la musique, une seule adresse. Les premiers étages de cette petite maison sont consacrés à Handel, des portraits, des vieux meubles et du velours. Au dernier étage, c'est un autre monde. On est chez Jimi Hendrix, un petit de pièces dont la chambre a été reconstituée à l'identique. L'ambiance est assez hippie, draperie colorée au mur, tapis au sol, plumes d'oie dans les vases. Heureusement, le duo musical Hendrix-Handel n'est pas aussi dissonant que leurs décos respectives.
I'm talking to the light man, the light cat is sitting up right.
C'est en 1969, lors d'un concert à San Francisco, qu'Hendrix a joué et chanté ces quelques notes du Messie de Handel. Un moment totalement improvisé, mais c'est la preuve que le guitariste avait la musique bien en tête et sur ses étagères. Dans son ancien salon trône sa collection de disques, dont trois vinyles de Handel. C'est en découvrant la plaque commémorative sur la façade de son immeuble qu'Hendrix, pensant comme beaucoup que le compositeur avait vécu au 23 Brook Street alors qu'en fait il avait vécu au 25, a eu envie d'acheter ses albums. Il a tout de suite aimé, il s'amusait même parfois à improviser à la guitare sur ses disques. Mais la rockstar n'était pas seule à être intriguée par le fantôme de Handel, qu'il est d'ailleurs persuadé d'avoir aperçu un soir. Souvent, des étudiants en musicologie venaient frapper à sa porte et demandaient à voir la maison où le compositeur allemand avait vécu. Les jeunes visiteurs ignoraient qu'il se trouvait en face d'un autre grand musicien. À cette époque, Hendrix était presque inconnu du grand public. À la fin des années 60, c'était effectivement pour Handel qu'on venait sur Brook Street, mais aujourd'hui, c'est Jimi Hendrix qui ameute les foules.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Guillaume Munier. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr. Édition spéciale.